Alors, bon, vous avez quelques années d'existence, mais il y a peut-être certains de nos lecteurs qui vous connaissent pas. Tu peux nous en dire plus sur vous ?
Oui, tout à fait. Oui, c'est un groupe de hard rock, effectivement, qui existe depuis 2013. On est 6 membres dedans, deux gratteurs, un bassiste, un batteur, un organiste, qui est l'élément clé du groupe, et un chanteur que je suis.
D'accord, d'accord. Bon, c'est un nom assez sanglant. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire écorché. C'est... voilà, c'est faut le prendre comment, au sens artistique, vous êtes des enfin voilà, écorché pour comment c'est venu, quoi.
Bah, c'est plus écorché de la vie, si tu veux, et c'est surtout en hommage à un pote qu'on a perdu juste avant de monter ce groupe. Et qui lui en était un vrai pour le coup.
D'accord, ok. D'accord. Ça, même symboliquement ou a posteriori, ça a marqué les débuts du groupe sur. Vous tâtonniez. Enfin, au début, on cherche un peu son identité.
Tout à fait. Bon, on avait déjà un petit peu une idée de sur quoi on voulait tendre. Mais effectivement, c'était pas encore établi. On n'avait pas encore notre identité à nous, quoi. Mais on savait quand même déjà plus ou moins qu'on voulait tendre vers un hard rock typé 70s, tout en tâchant de modernifier tout ça, quoi.
D'accord. Finalement, si tu devais un peu essayer d'écrire la musique du groupe, peut-être à travers les références communes que vous avez, vous, dans le groupe, s'il y a des références communes.
Bah, il y en a quelques-unes, mais en vérité, le groupe, il est scindé en deux au niveau des références, si tu veux. C'est qu'il y en a, trois qui sont vraiment très typés rock de 60 à 80, et il y en a trois autres qui sont des métalleux purs et durs. Donc, ce qui fait que pour retrouver des groupes sur lesquels on est tous d'accord, on va plus taper dans des classiques des années 70, quoi. Tu vois, genre Led Zeppelin, genre Black Sabbath, genre Les Who, genre Creedence, évidemment. Donc, voilà. Mais sinon, c'est un tel mélange d'influence au sein de ce groupe que je peux pas te dire oui, on est tous hyper fans de Pantera, par exemple. Ça, c'est pas possible. D'accord. Mais on arrive tous à se retrouver sur certains classiques, oui.
Et donc, il n'y a pas la volonté parfois des métalleux d'accélérer le rythme ou d'avoir un riff un peu plus...
Eh ben, pas tellement, en fait, car le compositeur principal, donc Julien Gladuet, c'est-à-dire le guitariste soliste, c'est lui qui écrit vraiment à 80% toutes les zics de Slade, musicalement en tout cas, sauf l'orgue et sauf le chant, mais tout le reste, c'est pour lui. En fait, lui, il est issu du métal extrême. Donc il a un groupe qui s'appelait Descent avant, et il a ouvert pour Morbid Angel, pour Vader, pour plein de groupes énormes comme ça, qui l'inspiraient pour écrire, si tu veux. Donc là, en fait, il l'a déjà fait. Il est déjà allé hyper vite, et il a déjà essayé de battre des records de vitesse. Donc justement, Slade s'est se rapprocher de ses classiques et de ses bases du rock'n'roll au final. Donc vu que c'est lui le patron, il va pas s'amuser à accélérer le pas là.
D'accord. Peut-être plus sur toi, voilà, quel est ton parcours finalement artistique qui t'a amené à rejoindre le groupe ?
Moi, je joue toujours avec mon bassiste dans un groupe qui s'appelle Goddame, qui fait du stoner metal et qui a 12 ans aujourd'hui. On a fait nos armes là-dedans, j'avais 20 ans évidemment, quoi. Enfin, j'ai eu plein de petits groupes avant, mais ils sont pas notables. Celui vraiment qui est très important dans notre carrière, c'est bien Goddame, puisqu'on a vraiment beaucoup tourné avec ce groupe. On a ouvert nous aussi pour des pointures genre Lamb of God, genre Riot God. Enfin, on a fait quand même pas mal de choses avec ce groupe, et c'est là-dedans qu'on a fait nos armes scéniques, si tu veux, et même qu'on a vu comment se passait le business de la musique, et qu'on a appris à s'adapter au music business aujourd'hui, quoi. Et Slade, ça a été en fait. Donc on est vraiment très très fan de métal. Slade, ça a été l'envie d'un peu de fraîcheur, si tu veux, et c'est tombé vraiment comme un cheveu sur la soupe, puisqu'on a rejoint le groupe avec Charlie d'ailleurs, et même avec tous les autres membres, puisque Julien nous a appelé pour jouer avec lui alors que personne s'y attendait, et ça a été un vent de fraîcheur pour tout le monde. Dès qu'on a commencé à répéter avec ce groupe, on s'est dit que là on tenait quand même quelque chose de très très cool, et vu qu'on n'a pas tellement de limites à part faire du rock et s'éclater un max, c'est pour ça que depuis personne n'a lâché le groupe, et que c'est devenu la priorité de tout le monde.
D'accord. Et justement, de par le fait qu'il y a une grande force créatrice dans le groupe, comment on fait pour avoir être un groupe et non pas des musiciens qui accompagnent un soliste, quoi, enfin, tu vois, ou un...
Ouais, bah en fait, la, le secret réside dans le fait qu'on est tous potes depuis 15 ans, en fait. C'est juste qu'on n'a jamais tous joué ensemble sous cette formation. Mais on se connaît tous depuis 15 ans. On est tous des amis très très proches, on va tous fréquenter les mêmes studios, les mêmes bars, les mêmes écoles. Donc, en fait, on se connaît tous. Et donc, on laisse toute cette partie créatrice à une seule personne parce que, tout simplement, parce qu'en fait, il arrive à écrire pour les gens. C'est-à-dire qu'il nous connaît tellement bien. Enfin, il les connaît tellement bien, parce que j'imagine il les écrit pas quand même, il n'en est pas encore là, mais peut-être que ça va lui arriver un jour. Mais n'empêche qu'il connaît suffisamment ses musiciens, et donc ses amis surtout, pour écrire pour eux. Donc en fait, des fois, il y a des trucs qui collent un tout petit peu pas, et dans ces cas-là, bon bah, les mecs les changent, quoi, et ça pose aucun problème. En fait, il n'y a pas de tyrannie musicale quand même dans ce truc-là. C'est juste qu'ils proposent des morceaux, que si on trouve qu'ils sont extrêmement bien écrits, on les prend. Si jamais on trouve qu'il y a des trucs qui foirent, on les change, ou on les dégage et on n'en parle plus.
D'accord. Et justement, donc quand il arrive, je suppose, en studio de répète, il arrive avec quoi? Un squelette assez, comment dirais-je, assez basique, et puis on construit dessus, ou c'est déjà très léché? Quel niveau de finition, entre guillemets, il vous apporte sur le titre?
Bah, ça va plus loin que ça, en fait. C'est que quand on arrive en studio, tout le monde connaît déjà le morceau et on le joue. C'est-à-dire qu'il nous propose des pré-productions avec déjà de la batterie, déjà de la basse et déjà les deux guitares. Donc on a ça déjà, tu vois, qui sont sur nos boîtes mail à tous, hein, sur la Dropbox. On a une énorme banque de morceaux où moi personnellement, en tout cas, je vais piocher dedans pour écrire des paroles et des lignes de chant au gré de mes envies du moment, tu vois. Ça dépend, il y a des jours où je suis un peu triste, alors je vais prendre un morceau lourd, il y a des jours où j'ai envie de casser la gueule à tout le monde, alors je prends un morceau speed, enfin bref, je pioche au milieu de tout ça. Une fois que moi j'ai écrit des paroles sur un titre, il y a l'organisme qui rentre en piste et qui met la dernière touche finale, si tu veux, au morceau. Et une fois qu'on a tes morceaux en pré-prod déjà en MP3, eh ben on les apprend tous, on les essaye en répète, et c'est là où on voit s'ils marchent ou ils marchent pas.
D'accord.
Et ça fait aussi qu'on va vite et qu'on arrive à produire énormément de titres et de CD assez rapidement, quoi.
Ouais, ça on va y revenir. Et toi justement, en tant que chanteur et donc parolier, t'as une liberté complète de thématique, ou tu discutes avec tes mecs avant ou après, comment ça se passe?
Non, déjà ils en ont rien à foutre.
D'accord.
En plus, oui, j'ai une liberté complète et totale, oui. Je peux raconter vraiment tout ce qui me passe par la tête. Ce que je fais assez régulièrement d'ailleurs, hein, je raconte absolument tout ce qui me passe par la tête et tout ce qui se passe dans nos vies, généralement tout ce qui touche le groupe, si tu veux, que je romance un maximum pour écrire des petites histoires sur chaque titre.
D'accord. Est-ce qu'il y a un moment ou un autre, est-ce que le choix en anglais était une évidence, ou vous aviez pu penser faire des trucs en français?
Non, jamais de la vie. L'anglais, c'était une évidence. De toute manière, le son du groupe est typé anglais, américain. On ne pouvait pas s'amuser à chanter en français. Et puis en plus, encore une fois, non, je ne te l'ai pas dit ça à toi. Mais n'empêche, on n'a pas de... Pardon.
Non, on n'a pas de souci.
En fait, je suis pas là pour revendiquer des trucs, tu vois, je suis pas là pour soulever les foules, je suis pas là pour écrire des poèmes, je suis pas là pour, bah voilà. Donc en fait, si tu veux, la musique engagée, c'est pas pour nous, et c'est encore moins pour moi, et je pense que le français s'y prête extrêmement bien, et vu que c'est pas du tout le propos de Flayd, je vois pas l'intérêt de chanter en français. Donc non, c'est jamais vraiment venu sur la table.
Ouais, mais t'es pas non plus, comment dire, tu vois, sorcier, les dragons et la princesse à sauver, tu vois ce que je veux dire?
Ah, carrément pas, non, faut pas déconner, non.
Ok, merci.
Non, pas du tout.
Donc t'aimes quand même, même si tu te laisses un peu délirer, il faut quand même que ce soit ancré dans la réalité.
Ouais, complètement, bah c'est toujours, en fait, c'est toujours des histoires vécues, si tu veux, que je renonce un maximum. Hein.
D'accord, ok.
Voilà, c'est vraiment tout est du vécu que je renonce un max.
Si on revient sur l'album précédent, enfin le disque précédent, Monster Man. Est-ce qu'il y a, voilà, si tu repenses à cette période-là, que ça soit, les répètes, l'enregistrement, les concerts après, est-ce qu'il y a un souvenir en particulier ou un élément qui te saute à l'esprit tout de suite?
Ouais, le concert de guitare en scène, on a ouvert pour Scorpion à l'époque de Monster Man. Là, ça c'était sûrement le concert de notre vie où tout était de la folie, hein. L'accueil, le public, jouer devant des milliers de personnes, c'était complètement dingue. Être accueilli quand tu es au catering, nous on allait pour te donner le niveau des gars quand même. Quand on a débarqué au catering, on est allé à la cantine des Técos. Et là, on nous a dit, non, mais qu'avez-vous, les gars? Vous allez dans le resto, là, puis vous choisissez la cuisson de votre viande, quoi. Donc, ça n'avait rien à voir avec tout ce qu'on imaginait. Donc là, on avait toutes les drogues possibles et imaginables sur nous, donc on a passé vraiment un super, super moment.
Et vous avez croisé les mecs de Scorpion ou pas?
Ouais, carrément.
Parce qu'ils ont une réputation d'être quand même super froid, lointain et froid.
Bah, ça dépend lesquels, en fait, hein, tu vois, genre, le chanteur était très très cool, après, le batteur qui s'est fait dégager depuis,
Kotak.
Ouais. Alice, c'était un fief et connard, et ça se voyait dans ses yeux et dans tout ce qu'il racontait. Mais, sinon, oui, à part le fait que les mecs, prenaient, une Mercedes pour faire 100 mètres.
Ben, oui, ça, ouais.
Oui, voilà. Bah, mis à part ça, franchement, de ce qu'on en a vu, après, on n'a pas discuté des heures avec, hein, mais de ce qu'on en a vu, quand même, la majorité du groupe est cool.
D'accord. Plus précisément, bon, ok, vous savez que vous allez jouer devant un public, sans faire injure, beaucoup plus nombreux que d'habitude. C'est un kiff du début à la fin, ou il y a un stress, puis un kiff, ou le kiff il vient a posteriori. Enfin, comment on le vit quand. C'est bien d'être en face de X milliers de mecs, mais quand t'es devant, faut assurer, quoi.
Ah bah carrément, bah en fait il y a les deux en même temps, hein. Très, très clairement quoi, il y a le kiff ultime et le stress ultime quoi. Pour te donner ma vision du truc si tu veux, j'ai dû vomir trois fois pendant cette,
tu vois,
sous le stress, mais tout en tâchant d'assurer un max et ce que je pense qu'il s'est quand même passé, il y a des vidéos qui traînent sur le net, on a quand même vraiment pas mal joué, et ça c'est, on a réussi à se mettre le public dans la poche assez facilement, mais deux ou trois fois, je suis allé vomir derrière les amplis, à un moment donné, je suis monté sur la tourelle de la régie, parce que j'avais un HF, voilà, même le public retourné à l'envers, en direction de mon visage, à un moment donné, je me suis retourné, j'ai vomi tout ce que je pouvais, et puis après c'était reparti, quoi.
D'accord.
Alors, c'était vraiment pile poil un mélange entre les deux, quoi. Mais c'est ce qui fait que c'était un concert particulièrement génial.
Ok, donc malgré tout ça, c'est à refaire quand on veut, dès que vous pouvez, quoi. Enfin,
carrément. Si fait, de toute manière, ouais. Cette musique, plus il y a de monde, et plus cette musique fonctionne. Ce groupe-là est générateur de bonne ambiance, plus il y a de monde, et plus ça marche, quoi. Donc oui, là, on y refera dès qu'on pourra, évidemment. Puis là, il y a des gens présents et où ça va réarriver, évidemment. Donc non, il n'y a pas de problème, et vivement que ça réarrive, d'ailleurs.
Et donc tu le disais, et avec Flayed, et avec tes groupes précédents ou tes expériences précédentes, ou les autres mecs avec d'autres, vous avez tous eu l'occasion de jouer en première partie de références, de mecs qui sont installés. Est-ce que, en regardant les mecs faire, ou bosser, ou en backstage, ou se préparer, qu'est-ce qu'on apprend? C'est quoi la différence entre un groupe qui se développe et un groupe qui est déjà au sommet?
Bah, vraiment tout, quoi. Tu t'apprends en permanence, en fait. Quand tu joues avec des pointures pareilles, t'apprends de l'arrivée de ton camion jusqu'à ce qu'il se barre, en fait. C'est-à-dire les balances, tu vois, les mecs faire, tu sais, t'apprends comment te positionner, t'apprends comment tout ça. Bon, là, c'est quand même des trucs acquis depuis des années, si tu veux, mais je me rappelle de l'époque où c'était ça, vraiment, où tu débarques, tu vois les mecs balancer, tu te dis, ok, tain, c'est comme ça qu'il faut faire pour que ce soit vraiment efficace. Après, tu vois les mecs sur scène, tu te dis, eh oui, c'est comme ça qu'il faut se placer, c'est comme ça qu'il faut parler au public. Enfin, voilà, tout est. T'apprends absolument tout à regarder les pointures, c'est évident, c'est comme ça, voilà, il faut le vivre pour l'apprendre, ça c'est sûr. Dans tous les cas, tenir une scène, ça c'est pas naturel.
Et en tant que chanteur, est-ce que t'as été surpris ou de certains, pas des préparations ou comment les mecs se mettaient en condition? T'as des exemples, ouais, t'as des anecdotes à nous, enfin, ou une anecdote comme ça qui t'arriverait, où t'as été un peu sidéré par la façon dont tel ou tel, soit parce qu'il se préparait pas, il y allait direct et il te faisait deux heures de show d'enfer derrière, soit parce que, ouais. Ouais, je sais pas, des trucs particuliers.
Bah plutôt ça, oui, tu vois, il y a plus, enfin en tant que chanteur en tout cas, et les chanteurs que j'ai vus et qui m'ont le plus coaché, c'est que justement, tu vois, moi je prends toujours un peu de temps pour me chauffer et tout, pour essayer de pas mettre deux morceaux avant que ma voix chauffe et que je sois au max de mes capacités, tu sais, j'essaie de me chauffer pour être au max d'entrée de jeu, quoi. Mais quand tu vois par exemple effectivement Andy Blaze de Lamb of God qui débarque et qui est tout malade, et qui ne se chauffe pas, qui débarque sur scène et qui pousse la braille la plus incroyable que t'aies jamais vue dans la première seconde où il faut les pieds sur scène. Ouais, non, mais là, t'hallucines, ça, c'est clair et net, quoi.
D'accord. Mais c'est du boulot ou le mec, il est doué ou les deux?
Ah, bah, les deux. De toute manière, le boulot est inévitable dans ce job-là. C'est que si jamais à ce moment-là, il s'est pas chauffé, c'est juste qu'il savait qu'il pouvait le faire comme ça, quoi. Et que ça fait des années qu'il le fait. Non, mais tout est une histoire de boulot dans tous les cas. Il n'y a rien d'inné. Encore une fois, pour tenir une scène et pour soit chanter, soit jouer. Il n'y a rien qui n'est, c'est que du boulot.
D'accord. Tu l'as mentionné toi-même, vous sortez des disques ou des hippies ou à un gros rythme. C'est quoi? Il y a un tourbillon créateur et donc vous nourrissez, ou parce que vous voulez éviter que votre public vous oublie? Ou les deux?
Bah, les deux. Encore une fois, mais c'est bien, tu poses des super questions. Mais ouais, tout à fait, les deux en fait, car. Vraiment, on a cette possibilité, cette chance de travailler très vite et d'avoir des morceaux très très vite. Donc en fait, quand on a un skate complet sous le bras, on serait beaucoup trop content de l'enregistrer. Donc c'est ce qu'on fait. Et comme un studio aussi sous le bras, bah, c'est encore plus facile. Donc du coup, on enregistre vraiment toujours tout dans la foulée et on y sort tout dans la foulée. Après, cette dynamique d'en sortir un par an, la première fois, on l'a pas fait exprès. Et là, je dois avouer que pour stopper, on s'est dit que c'était un bon calendrier quand même de tenir toujours ce truc de un album par an, parce que oui, les gens ne t'oublient pas. Oui, tu donnes à bouffer en permanence. Et oui, ça te permet de jouer aussi toute l'année finalement. Donc là, je pense qu'on va sortir ce troisième album. Enfin, c'est pas je pense, c'est sûr. On va sortir ce troisième album l'année prochaine pour garder cette cadence. Et après, peut-être une fois qu'on sera, que ce troisième album nous aura installé un peu plus, on attendra pour sortir la suite. Mais en tout cas, non, là, il faut qu'on garde cette dynamique jusqu'au bout.
Et connaissant ton guitariste créateur, là, il en a sous le pied encore ou?
Oh là là, il en a tellement. Mais moi, j'ai encore une banque de 50 titres, là.
D'accord, ok, donc, ok.
Ouais, ouais, donc non, là, il en envoie un maximum, et puis en plus, il continue d'en écrire tout le temps, et évidemment qu'ils évoluent dans l'écriture, quoi, donc je vais rarement piocher dans les vieux titres qu'il a déjà écrits, tu vois. Je vais toujours taper dans les derniers qu'il a composés, quoi, histoire que ça reste quand même dans la même dynamique que que ce qu'on fait sur les derniers albums.
D'accord. Sauf erreur de ma part, Eleven Million, c'est votre premier chez Chaotoxin ?
C'est notre premier chez Chaotoxin, ouais, tout à fait.
Pourquoi chez eux ?
Bah, déjà, c'est le tout premier label qui a répondu à mon mail et à mon mail de démarchage, si tu veux, et dans l'heure qui a suivi l'envoi du mail. Après, il y en a d'autres qui ont répondu, qui étaient intéressés. Mais lui, c'est le premier qui a répondu, et c'est le premier que j'ai eu au téléphone assez rapidement, même dans la journée, si tu veux. Donc, j'ai beaucoup discuté avec cet homme-là, on a dû rester 2 heures au téléphone. Et j'ai eu une relation de confiance et un ressenti vraiment très très cool avec Nico de Chaotoxin. Derrière, après toutes les propositions qu'on a eues, je les ai gentiment déclinées parce qu'en plus, le deal qu'ils me proposaient était très franchement imbattable.
D'accord, d'accord. Et donc ça a l'air de vous entendre que c'est toi qui t'occupes du business dans le groupe ?
Ah, complètement.
D'accord. Alors là aussi, c'est peut-être un peu l'idée de casser les clichés. Voilà, un groupe comme Flayed, il commence à être quand même assez connu, surtout sur la scène hexagonale, commence à se faire une petite répute à l'extérieur, commence à avoir pas mal, avoir un peu un tableau de chasse avec des disques. Vous êtes professionnel ou pas?
Tout à fait pas.
Vous pouvez pas. Et voilà, et alors, ça c'est bien de le dire. Et est-ce que vous êtes loin d'être professionnel?
On commence à rentrer du pognon, pour dire la vérité. On commence à être rentable. Mais on commence tout juste avec 2 albums et 1 EP. Ok, on a que 3 ans d'existence, mais on commence tout juste à rentrer du pognon. Donc là, on n'est pas du tout prêt de lâcher nos boulots. Mais par contre, le groupe va pouvoir commencer à investir dans du visuel qui vaut le coup, proposer des shows de toujours plus en plus classe, tu vois. Donc, non, on n'en vit pas, on a tous un boulot à côté, et une vie de famille, et une meuf, et tout ça, on a toute la fine équipe au cul, mais... pardon.
J'en prie.
Et c'est
un objectif ? Ça serait un objectif ?
De réussir à en vivre, oui. Moi, j'adorerais payer mon loyer et acheter mon pain grâce à Fade, ça c'est évident. On ne demande certainement pas des 100 et des 1000, mais si jamais je pouvais toucher ce que je touche à les gratter en intérim tous les jours, évidemment que ça ferait plaisir à tout le monde. Par contre, il y a un truc pour lequel on n'est pas tellement pour, c'est l'intermittence, tu vois. C'est-à-dire que galérer, courir après des cachets, on n'a pas envie de cette vie-là non plus. Donc, c'est soit ça marche et tant mieux pour nous, soit on continue de taffer à côté et on continue de faire comme ça et ça nous va très très bien.
D'accord, donc vos buts c'est d'atteindre un palier suffisant pour ne pas tomber dans le système de l'intermittence.
Carrément.
D'accord.
C'est pour ça que là on se fixe toujours des objectifs extrêmement hauts, même si on les atteint jamais, mais n'empêche que si jamais tu te les fixes pas, bah t'avances pas finalement. Donc oui, là le but c'est d'arriver à engranger à cette pognon pour qu'on puisse que Flayed soit autosuffisant pour nous 6 finalement, enfin même pour nous 8 avec les techniciens.
D'accord, d'accord. Bon, il y a un élément qui m'intéresse toujours, c'est l'aspect visuel, surtout vos pochettes et autres. Mm-hmm. Comment vous travaillez ça, en général?
Alors là, c'est toujours le même gars qui bosse pour nous et qui fait ça, c'est-à-dire que c'est celui qui a même fait le logo et qui a commencé dès la première pochette, dès celle du Symphony Fort de Flayed, c'est HPR du Hamakara Studio. Alors donc, en fait, c'est un producteur, hein, mm-hmm. Et avec les fonds, c'est lui qui nous mixe et qui nous masterise aussi nos albums, d'ailleurs. Mais à la base, il est graphiste et c'est lui qui a pris plus ou moins Flayed son aile tout au début du groupe, vu que même il a créé le logo, si tu veux, et il nous a pas lâché depuis. Et en fait, lui, on a simplement à lui donner une idée et à lui faire écouter le CD et il nous pond un artwork. Donc, et on n'a jamais rien à redire, on l'a jamais fait retoucher un artwork, quoi. On a toujours adoré ce qui nous a pondu, donc c'est notre graphite attitré, je pense pas que ça change tout de suite là.
D'accord, ok. Donc finalement, vous c'est simple finalement, les graphismes.
Ah mais pour nous c'est hyper cool, hein. Mmh. Évidemment, nous on a une petite idée, ou des fois même pas, on lui fait écouter le sud et il nous balance que... Enfin, on mise tout sur son côté créatif à lui, quoi. D'accord. Enfin, on estime que c'est un job à part entière et que nous on est beaucoup trop naze pour tenter quoi que ce soit à ce niveau-là, quoi.
Ok. Toujours dans les aspects un peu visuels, mais de l'autre côté, vous avez de mémoire pour chaque album, vous aviez sorti au moins un clip. Il y en avait donc pour le premier album, je sais plus quel titre c'était, mais c'était.
C'était Machine Fun.
Ouais, Machine Fun. C'était un truc un peu scénarisé, voilà.
Ouais.
Et puis le deuxième, c'était un truc totalement d'animation pour Monster Man. Alors deux questions différentes. Pour le premier album, le scénarisé, est-ce comment on vit ça, enregistrer un clip? Il y a un côté sans doute amusant au début, mais ça vient dire fatigant de refaire 25 fois les mêmes trucs. Donc est-ce que c'est quand même c'est un plaisir, ou c'est un plaisir qui est bon, il faut passer par là, mais on s'en passerait?
C'est plutôt ta deuxième solution, c'est-à-dire que ça c'est pas le genre de truc qui nous plaît le plus. C'est-à-dire que oui, reprendre 10 fois les mêmes prises pour selon un scénar qui en plus aujourd'hui on trouve pas terrible, mais bon, n'empêche que sur le coup à faire, c'est pas le plus drôle, quoi. D'autant qu'il faut gérer les figurants et tout, et c'est une plaie comme pas possible. Donc non, le deuxième clip qu'on a fait, où c'est le mec de Metal Maniacs qui a tout dessiné, mmh, et qui s'est occupé de faire tout le clip, finalement, ça s'était... voilà, nous on s'est reposé sur nos lauriers, et il nous a filé le clip, et on était tout contents, mais on n'avait rien branlé, quoi.
D'accord.
Donc ça, c'était plutôt bien. Alors là, il va y en avoir un qui va sortir pour Eleven Million.
Mmh.
Et là, ce coup-ci, on a fait un peu des deux. Il y a de l'animation et il y a du réel. Donc on a tourné quand même quelques scènes sur un fond vert et on sera intégré dans un dessin animé, et ça, on verra ça, ça devrait sortir courant janvier.
Ouais, surtout qu'enfin, on imagine que quand vous tournez en réel, c'est un peu la philosophie de il faut tout faire de soi-même pour limiter les coûts, et donc vous mettez la main à la pâte méchamment, et donc les figurants, faut les gérer, enfin vous n'avez pas une équipe de 50 mecs autour de vous, quoi.
Ouais, bah là quand même, encore une fois, comme je te disais, Fleggikov, ça commence à rentrer du pognon quand même. Donc c'est pour ça qu'on investit dans ce genre de trucs-là. Donc là, quand on a fait nos scènes sur un fond vert, par exemple, on a quand même pris une équipe technique impeccable. On a loué un studio vert impeccable. Et nous, on était vraiment juste là pour jouer le morceau, si tu veux.
Et alors là aussi, question un peu peut-être idiote ou naïve. Est-ce que en 2016, où réseaux sociaux, YouTube et machin, alors il y a YouTube, etc., réseaux sociaux, mais il n'y a plus MTV ou VH1 ou quasiment tout le monde s'en fout. Est-ce que ça a encore un intérêt de sortir des clips pour un groupe?
Ouais, carrément. Évidemment que oui. Ça fait perdurer un album ou un EP. Tu vois, c'est que sortir ça, ça met un coup de fouet à ton album que tu t'as sorti quelques mois avant, par exemple, où ça le tease impeccablement bien. C'est-à-dire que si jamais tu sors ton clip avant la sortie de l'album, ça le tease magnifiquement bien, et donc du coup ton album va avoir un peu plus de... Enfin, les gens vont un peu plus l'attendre, et si jamais tu le sors après, et ben ça remet un coup de fouet à la promotion de ton album.
Mais plus que les vidéos que vous mettez aussi à dispo sur YouTube, où on voit le groupe en session scène?
Bah bien plus, parce que les clips c'est vraiment hyper pro. Tu vois, une vidéo que tu postes sur YouTube comme ça, ou même des lives, en fait les gens sont pas tellement intéressés, alors que quand tu écris official vidéo sur YouTube, tu sais pas pourquoi, mais les gens vont bien plus y voir.
D'accord, bah c'est bien à savoir aussi qu'il y a marqué official vidéo, ça intéresse plus, même si parfois c'est des faux lives ou des pseudo lives, bon, donc ça n'a pas d'intérêt plus.
Ouais.
D'accord, mais je savais pas cet aspect là.
Bah, tu vois, par exemple, moi quand je vais chercher un groupe que j'ai envie d'aller voir sur internet, je tape le nom du groupe et official vidéo. Au moins t'as tous les clips officiels et tu sais que t'as le meilleur du groupe, ou au moins la composition artistique qu'ils avaient vraiment envie de montrer. Donc c'est globalement ce qui représente le plus le groupe.
Et si je te dis là un ou deux clips qui t'ont marqué et qui continuent de te marquer, metal ou pas, hein, rock ou metal, y en a un ou deux qui t'arrivent là en tête?
Putain, alors comment il s'appelle ce groupe de ouf qui vient de sortir un clip de malade, OK quelque chose? Ça parle pas du tout ça.
OK quelque chose?
Ouais, ou quelque chose OK, je sais plus, mais tu sais, c'est vraiment de la pop. Et ce clip, il est magnifique, c'est un truc tourné, qu'ils ont mis 4 secondes et demie à tourner, et finalement, quand ils l'ont passé en slow motion, ça fait un clip complet, et c'est un truc de malade mental, avec des effets de ballons qui explosent, de peinture, de guitare qui explose, enfin bon, c'est un truc de fou. Essaie de chercher sur...
Ah ouais, je vais chercher, parce que je connais pas, ça me dit rien ça.
Ouais, ouais, et bah, le clip est quand même vraiment magnifique et c'est un bijou de production, quoi.
D'accord, ok, super. J'ai une dernière question et puis un petit quiz. Enfin, c'est pas un quiz, c'est plutôt voilà des questions sur plutôt sur tes goûts musicaux. Ma dernière question, c'est à court et moyen terme, quels sont vos espoirs ou vos attentes?
À court terme, de faire un maximum de festivals cet été. Ça, c'est, enfin, à court et moyen terme, hein, d'arriver à décrocher un maximum de festivals cet été, parce que je pense que c'est là où t'as le plus d'exposition pour un groupe et où tu peux vraiment montrer au plus grand nombre ce que tu veux sur scène.
Mais enfin, les programmations, elles se font maintenant, là, non?
Oh, elles se sont même déjà faites pour certains.
D'accord.
Donc oui, mais là on est sous le coup de plusieurs programmations déjà, mais on n'a aucune confirmation si tu veux.
D'accord.
Bref, il y a plein de trucs que j'ai pas le droit de parler. Si
d'accord. Hein, Facebook sera la source, d'accord.
Ah, Facebook sera complètement la source, ouais. Donc oui, à court et moyen terme, vraiment ce qu'il faut qu'on fasse, c'est jouer un maximum sur les festivals de TP.
D'accord.
Et à plus long terme, sortir un bon troisième album. Mais ça va arriver.
Et donc ça, c'est pour 2017.
Ça, c'est pour fin 2017, voire début 2018, si on a envie de s'entraîner.
D'accord, ok. Et donc, juste deux, trois questions pour mieux connaître tes goûts, ou, enfin voilà, un peu ta vie artistique. C'est toujours difficile, mais je la pose. Chanson préférée tous les temps?
Ah, putain!
Moi-même, j'en ai deux, hein, donc je sais que c'est compliqué, hein, mais bon.
Ouais. Chanson préférée tous les temps...
Ou je peux aller jusqu'à album préféré, quoi, mais bon...
préféré de tous les temps, je dirais Revolution Is My Name de Pantera.
D'accord. Premier album rock que tu as acheté?
Le Back in Black de CDC.
D'accord. Le dernier?
Rock, le dernier... j'ai acheté celui des Rats, c'est un groupe de potes.
D'accord. Chanson de Flayed que tu aimes le moins?
Ah, c'est pas mal ça.
Ah, n'est-ce pas?
Ça, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Et je dirais... Putain, c'est pas mal du tout, ça. Je dirais le morceau Symphony Force of Light du premier album, qui était beaucoup trop écouté.
D'accord.
On a beaucoup trop joué.
Et, ok. Imagine, pour le prochain disque, là, le troisième album, t'as le choix d'un invité mort ou vivant. Tu prends qui? Ah, ça c'est faisable, c'est bien. C'est pas genre Jimi Hendrix, quoi.
Ouais, non. D'accord. Non, puis lui, je pense que c'est de la grosse folie, donc à un moment donné, faut faire avec ce qu'on a.
Lui, t'as l'espoir de pouvoir le croiser sur une scène à l'occasion, quoi.
Bah, pas dans l'instant, mais...
Pas à court terme, mais voilà.
Ouais, dans les futurs, pourquoi pas.
Encore deux petites. Vous avez la possibilité... Imagine, t'as la possibilité de booker un concert n'importe où dans le monde. Tu vas où? T'as une salle mythique, t'as un truc, t'as un, je sais pas.
Madison Square Garden.
D'accord.
Okay. L'O2 Arena à Londres.
Ok. Ouais, d'accord. Des petites salles, quoi. Ça va.
Ouais, des petites salles, quoi.
Et dernière chose, ton album de l'année 16, pardon. Album de l'année 2016.
Bah, en fait, là, je suis en train d'en bouffer un et même de le poncer. C'est le dernier album des Mountain Men.
D'accord. Okay.
Mais je te l'ai pas cité tout à l'heure, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma meuf.
Bah, excellent goût. Excellent goût.
Ces types-là, ils sont vraiment énormes. Mais oui, ce dernier album, je suis en train de le poncer, là.
D'accord. Eh ben, merci à toi.
Bah, merci à toi, c'était très très cool. Avec de très bonnes questions.
Eh ben, je te remercie. À bientôt. Bon courage.
Allez, à bientôt, salut.
Ciao.